Faire découvrir aux enfants les cultures et traditions du monde, tel est le projet que mène Constellatio depuis 2011 à travers 7 pays avec près de 200 enfants. Qui se cache derrière cette association ? Rencontre avec Charlotte Courtois.
Je m'appelle Charlotte Courtois, j'ai 26 ans, bientôt 27, et je suis costa-armoricaine d'adoption. Française plus généralement parce que j'ai beaucoup bougé et je continue depuis que j'ai créé l'association Constellatio en 2011 pour sensibiliser les enfants à la diversité des coutumes et des traditions.
Alors que signifie Constellatio ? On entend constellation, c'est la même chose ?
C'est ça, exactement. En fait, c'est constellation en espéranto. Donc c'était un peu difficile de trouver un nom qui serait prononçable dans la plupart des pays. Et l'espéranto, je trouvais que le message était sympa. C'est une langue qui est censée réunir et c'était le but du projet.
Et justement, il y a un très beau texte pour présenter cette association.
Donc les phrases, effectivement, c'était « Comme les étoiles, les cultures sont belles et souvent fascinantes. Comme les étoiles, les cultures sont toutes différentes. Comme les étoiles, les cultures ont leur propre histoire. Comme les cultures sont éloignées les unes des autres. Comme les étoiles, les cultures rayonnent et plus on en est proche, plus elles nous éblouissent et nous empêchent de voir les autres. Or, en reliant les étoiles, on leur trouve une réelle signification. Des figures apparaissent, les constellations. »
Et c'est vous qui avez écrit ça ?
Oui.
Constellatio, l'association qui eh bien, a mis en route un projet en 2011, et vous êtes derrière cette association. Vous l'avez dit, c'est sensibiliser les enfants à l'existence de cultures différentes. Plus de précision ?
Ben en fait, j'ai toujours été fascinée par les différences culturelles, la façon de vivre des gens, le folklore, les valeurs qui peuvent varier d'un pays à l'autre, etc. Et je pensais que c'était important de partager ça avec les enfants. Moi, j'ai eu la chance d'habiter à l'étranger étant jeune, et ça m'a énormément ouvert l'esprit à l'existence de la différence sans pour autant juger. C'est-à-dire que c'est pas parce que l'autre fait telle ou telle chose qui ressemble pas à ce que je fais que c'est mieux ou que c'est moins bien. Et ça, quand on n'est pas confronté à cette diversité, c'est difficile à comprendre. Et c'est pour ça que je voulais vraiment travailler avec les enfants sur ce sujet-là et ouvrir un petit peu leurs esprits à ça dès le plus jeune âge, en fait.
Pas vous limiter à la France, hein, on l'a dit, 7 pays, près de 200 enfants. Vous n'êtes pas seul, quand même, derrière ce projet, peut-être au départ, plus maintenant.
Si, si.
Toujours seul.
Oui, en fait, l'idée, c'était... Donc, j'ai créé l'association pour donner un cadre juridique et bien montrer que c'était entrer dans le long terme. Par contre, avant d'emmener avec moi plein de gens, je voulais tester un peu le projet. Donc, c'était l'idée d'un projet pilote, en fait, pendant 15 mois, 18 si on compte l'intervention en France avant le départ. Donc, à la base, non, c'est juste moi, mais ça a vocation à s'agrandir, évidemment.
Entre un projet et le mettre en pratique, il y a parfois un fossé. Pour vous, c'était clair, ce projet allait être concret dans les mois et les semaines à venir ?
Oui.
C'était en 2011 ou alors encore avant ?
Alors l'idée remonte à il y a plus longtemps, quand j'étais étudiante et je travaillais sur le management interculturel et je m'étais dit un jour, quand j'aurais travaillé pendant 10 ans et j'aurais mis de l'argent de côté, je prendrais une année sabbatique et je ferais quelque chose là-dessus, quoi.
Et vous avez mis de l'argent de côté ?
Ben même pas, en fait. Enfin si, j'ai mis un peu d'argent de côté, évidemment. Mais pas dans cette idée-là. Je pensais pas que ça allait se faire si tôt, en fait. Et j'ai travaillé à Paris dans une association où un jour, il y a eu une nouvelle recrue qui était en train de créer un dossier pour, elle, monter un projet de 3 mois en Amérique du Sud pour des bourses, en fait, parce qu'il y a pas mal d'organismes qui sponsorisent des projets de jeunes. Et là, je me suis dit, ben en fait... c'est peut-être possible. Et donc, j'ai commencé à travailler sur l'idée. Et puis, ben, en fait, une fois qu'on met à plat, on s'emporte dans le truc et puis ça se fait tout seul, quoi. Alors, c'est du boulot, c'est...
Ça fait peur ?
Enfin, moi, j'ai pas eu peur au début, en fait, parce que je me rendais pas compte. J'étais tellement prise dans l'idée que je trouvais super cool. Et voilà, j'en parlais avec des gens qui me donnaient des conseils, parce que j'ai eu besoin de pas mal de conseils, entre autres au niveau pédagogique, parce que je n'avais pas de formation du tout par rapport à ça. J'y suis allée un peu à l'instinct.
Vous vous êtes entourée d'instituteurs, de professeurs?
Oui, alors en fait, dans ma famille, ma tante est institutrice, en fait, en lycée français à l'étranger. Donc, elle m'a donné des conseils et on a un bon ami de la famille qui était conseiller pédagogique au lycée français de Madrid. Et donc, du coup, moi, les informations que je n'avais pas, je cherchais en fait confirmation auprès des spécialistes, quoi.
On pense à certains réseaux sociaux, peut-être, pour se faire connaître.
Alors, réseaux
pour être
sociaux.
aidé, non, peut-être pas dès le départ.
Alors, pas réseaux sociaux classiques au départ, même si c'était le cas après. Par contre, ce qu'on appelle le crowdfunding, donc KissKissBankBank en l'occurrence pour moi, qui sont les plateformes en fait qui permettent de récolter des fonds auprès des internautes. Et ça, par contre, si, ça a permis de récolter pas mal d'argent. Et de faire passer le message, en fait, et d'avoir du coup pas mal de gens qui ont suivi du début à la fin le projet. Et ça, c'était vraiment chouette. Et c'était vraiment un très, très bon outil.
Vous avez dit au départ que vous avez voyagé, mais il faut être curieuse, il faut être aventurière.
Ouais, je pense. Je pense qu'il faut être curieux. Je sais pas. Il y a des gens qui me disent, oh là, qu'est-ce que
N'était
vous
pas
êtes
bien.
courageuse. Je me rends pas compte. C'est juste que j'avais envie d'aller voir, en fait. Je me demandais quoi. J'avais envie de voir ce qui se passait ailleurs. Et c'est vrai que ça me fait toujours beaucoup rire quand les gens me disent, oh, qu'est-ce que t'es courageuse. Et ben je me rends pas compte, en
En tout cas, Charlotte Courtois, vous êtes courageuse.
Merci.
Ce projet donc s'est monté pendant combien de mois et vous êtes partie en 2011
Oui, je suis partie en
exactement?
septembre 2011 et j'ai travaillé sur le projet environ un an et demi avant de partir.
Il faut trouver des écoles. Il y en a sept,
C'est
donc
ça.
sept pays, sept écoles.
Voilà. Il a fallu trouver les écoles, il a fallu monter tout le projet pédagogique, puisque dans chaque pays, j'intervenais pendant 2 mois auprès des enfants, 2 à 3 mois.
Et c'est bien déjà de dire que à la fin de ce projet, c'était de créer des livrets.
C'est ça, avec des histoires. Donc en fait, le but, c'était de faire raconter aux enfants comment ils vivent. Donc ils ont raconté un anniversaire, un mariage, une journée à l'école. Il y avait 6 thèmes, 5 fixes, un que les enfants choisissaient sur la base du brainstorming et du vote. Et ça permet en fait de comparer avec comment ça se passe dans les autres pays. Donc les livrets ont ensuite été échangés entre les écoles participantes, non seulement pour que le travail des enfants soit valorisé auprès des autres élèves qui avaient participé, et en plus pour découvrir en fait comment ça se passait ailleurs. Donc il y a les histoires et en plus de ça, il y a un petit pot-pourri avec une chanson, une recette, un jeu de cour de récréation, les vêtements traditionnels et les symboles culturels.
Et ça a été fait dans sept pays, dans sept écoles, avec plus de 200 enfants. On va partir dans ces pays avec vous lors de ces prochaines minutes. Charlotte Courtois, et dans vos bagages, vous avez emmené des musiques. On va en écouter une première avec Trio.
Mamselle Bulle avait un rêve un peu spécial. Pour une bulle, quitter la terre, c'est peu banal. Mamselle Bulle. Comme un funambule qui rêverait de s'envoler à l'envol d'un ballon, Bulle s'est accrochée, championne de l'aviation.
Bulle commence à s'élever.
Au-dessus des arbres, un alpiniste anglais lui indique le haut de la montagne.
Mademoiselle n'est pas rassurée.
Elle se demande où le ballon se dirige.
Mademoiselle, tout en haut, avez-vous le vertige?
Mamselle Bulle par Trio et les Ogres de Barbac que vous avez apporté dans vos bagages. Charlotte Courtois, lors de votre tour du monde, 7 pays, 7 écoles, 200 enfants que vous avez rencontrés par le biais de l'association Constellatio. Alors pourquoi le choix de cet extrait, Mamselle Bulle?
Mamselle Bulle, c'est un petit peu ma chanson phare parce que j'avais un rêve un peu spécial, comme Mamselle Bulle, et un rêve peu banal. Et c'est vrai que l'idée du rêve était importante pour moi parce qu'on grandit en nous disant qu'il faut un peu abandonner nos rêves, qu'il faut revenir les pieds sur terre. Et non, j'étais pas d'accord. J'étais pas d'accord. Et c'est vrai que dans tout le processus de préparation du projet, j'ai rencontré des gens qui étaient un petit peu blasés, qui me disaient c'est mignon quand on a la vingtaine de vouloir changer le monde. Et pourtant, je ne suis pas la seule à avoir des rêves. Et il y a des gens qui ont bien plus de 20 ans. J'ai rencontré entre autres Claude Alfornery, qui doit avoir, je crois, 91 ans maintenant. Et à cet âge-là, il a toujours plein de rêves et il se bat pour améliorer les choses. Et donc voilà, c'est un peu un pied de nez.
Et vous, c'était tout simplement d'aller découvrir la culture dans certains pays, d'enfants, et de faire partager cette culture avec d'autres pays, hein, c'est ça hein.
Oui, c'est ça. Et de montrer aux enfants que c'est intéressant et que ça ne fait pas si peur que ça.
Vous avez dit sensibiliser les enfants à l'existence de cultures différentes, les aider à s'y intéresser, à développer leur curiosité. Et vous avez donc créé une série de livrets présentant donc leur culture et leur tradition que j'ai entre les mains. C'est marqué dessus Constellatio. Alors, je vois l'Afrique du Sud, les États-Unis, l'Australie, le Cambodge, la France, le Mexique et la Tunisie. Vous avez fait tout ça en combien de mois ?
En 15 mois de voyage, plus 3 mois en France avant le départ.
À l'école, voilà. Justement, on peut le dire, hein, l'école Sainte-Marie.
L'école Sainte-Marie de Saint-Brieuc, exactement.
À Saint-Brieuc, vous avez commencé, c'était un peu c'était un essai.
Un peu. Ça faisait partie du projet, mais c'était quand même un test, quoi. Et ça a été fantastique.
Et là, vous avez dit, c'est bon, je peux partir.
Ah ouais, vraiment. Et bon, j'y allais, voilà, en me demandant quoi. En me demandant ce qu'allait se passer, quelle allait être la réaction des élèves, de l'école, etc. Et ça a été magique. J'ai des élèves, c'était en 2011, j'ai des élèves qui m'envoient encore des messages en me demandant alors, où est-ce que tu es, quand est-ce que tu viens nous voir, c'était vraiment génial. Ça fait 2 ans, quoi. Et c'est des élèves qui avaient à ce moment-là 8-9 ans, quoi.
Et qui ont grandi, évidemment.
Et qui ont grandi, qui sont maintenant au collège.
Et vous avez quitté Saint-Brieuc. Quel est le premier pays ?
Le Mexique.
C'était un choix précis ?
C'était un choix précis.
Au hasard ? Ouais, précis, ouais. Pourquoi ?
Bah, en fait, sur le choix des pays globalement, comme c'était un projet pilote, je voulais que ça soit varié. Donc déjà, je voulais aller sur tous les continents. Enfin, à peu près, parce que du coup, le Mexique, c'est Amérique centrale plus qu'Amérique du Sud, mais... Et une autre raison, c'est, c'était mon bébé, donc j'ai pu choisir moi-même les pays. Et il y a des pays qui me faisaient rêver depuis très longtemps, et notamment le Mexique. Oui.
Vous avez fait le Mexique, alors comment ça se passe une arrivée type dans tous ces pays ? Donc vous arrivez déjà tout simplement à l'aéroport,
ouais.
Et là vous allez directement dans les écoles.
J'ai envie de dire qu'il n'y a pas d'arrivée type en fait. C'est très variable. Il y a des pays où je suis arrivée, par exemple au Mexique, je suis arrivée... je suis arrivée à Mexico, mais c'est pas là-bas que je faisais le projet. Donc, j'ai été accueillie par ma famille, j'ai de la famille sur place. Je suis repartie, du coup, en Basse-Californie du Sud, qui est la péninsule, en fait, à l'ouest du Mexique. Et alors là, ça a été un petit peu, entre guillemets, à l'arrache. J'avais l'école, j'avais toutes les écoles partenaires avant le départ, de toute façon, mais je n'avais pas d'hébergement. Parce que l'ami qui devait m'héberger sur place a déménagé un mois avant que j'arrive. Donc, ça a été arriver, trouver quelqu'un pour m'héberger quelques jours et demander à l'école s'il y avait une famille d'élèves qui pouvait m'héberger, en fait. Donc, il y a la famille d'un de mes élèves qui m'a hébergée pendant 2 mois, gracieusement. Et j'avais besoin de vraiment 2 mois à raison de 3 heures par semaine pour mener à bien le projet.
3 heures par semaine, vous étiez dans l'école, vous expliquiez exactement votre projet et vous les suivez durant ce projet, leur expliquer comment faire le livret.
Oui, absolument. Moi, j'animais en fait, c'était un peu comme des ateliers. J'animais les ateliers, donc ça commence par des réflexions sur la culture. Et j'ai travaillé beaucoup sur la base de brainstorming. Donc les enfants donnaient plein d'idées. Donc je leur disais, d'après vous, qu'est-ce que c'est que la culture ? Et donc, ils disent, c'est les maisons, c'est ce que mangent les gens, c'est les peintures, et ils donnent plein d'idées. Et puis après, je leur explique donc, ce que c'est que la culture. Après, on travaille sur les symboles culturels. Donc là, ils choisissent les symboles qui les représentent. On choisit les personnages des histoires, parce que pour les 6 histoires de chaque pays, les enfants choisissent 2 personnages, un frère et une sœur, qui ont à peu près le même âge qu'eux, donc entre 8 et 10 ans. Et ils choisissent les prénoms, ils choisissent à quoi ils ressemblent, leur personnalité, etc., pour avoir une certaine homogénéité, en fait, dans les histoires. Et donc, on choisit entre autres les prénoms, et c'est intéressant, parce que ça permet d'avoir des prénoms un peu locaux. Donc, il y a certains pays où c'est difficilement prononçable.
Créer une histoire, de présenter les différentes fêtes nationales.
Ouais, alors c'est marrant parce qu'en fait je pensais que les fêtes nationales, il y avait une fête nationale dans chaque pays et c'est pas le cas. Par exemple, en Afrique du Sud, où en fait ils ont plein de journées fériées, Mais il n'y a pas particulièrement une fête nationale comme on peut avoir, nous, en France, ou comme ils ont au Mexique, ou aux États-Unis. Donc, en fait, c'était intéressant. Je découvrais aussi au fur et à mesure plein de choses, quoi.
Quand on parle d'école, on parle aussi de religion. Parce qu'il y a des écoles privées, il y a des écoles publiques. Alors, comment ça s'est déroulé? On imagine bien, mais ça devait être intéressant de voir comment évolue une école.
Alors, il y a une seule école où j'ai vraiment vu, en fait, que la religion était présente. C'était en Australie, où les enfants, d'un coup, ils faisaient une pause et puis ils faisaient une prière, en fait. Mais c'était, en fait, une sorte d'interphone qui communiquait dans toute l'école. Et puis, d'un coup, hop, ils appelaient à l'interphone. C'était l'heure de la prière. Et donc, en milieu de cours, hop, tout le monde s'arrêtait et faisait la prière. Mais sinon, dans les autres pays, je ne l'ai pas forcément vu. Même dans les pays qui sont pratiquants, au Mexique, par exemple, ils sont très pratiquants. Là où j'ai vu la différence, c'est dans la facilité de parler de la religion. C'est-à-dire qu'en France, on parle très peu de religion. C'est quelque chose qui relève vraiment... Je ne sais pas si c'est tabou, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui relève vraiment de la sphère de l'intime. C'est-à-dire que même avec nos amis, on ne va pas dire « Ah bon, et toi, est-ce que tu es catholique? Est-ce que tu es musulman ?» Et en fait, moi, la surprise, c'était au Mexique, par exemple, où là, c'était... Alors, il y a beaucoup d'expressions religieuses dans le langage, « Que Dieu te bénisse », etc. Et les gens parlent naturellement comme si c'était une évidence, en fait, que tout le monde était croyant, en fait. Et c'est vrai que moi, ça m'a surprise, c'était... C'était une expérience intéressante et c'est là que j'ai réalisé qu'en France, on n'en parlait pas.
Charlotte Courtois, on se retrouve dans quelques secondes. Deuxième pause musicale que vous avez choisie. Vous nous direz pourquoi après et on continuera ce voyage en France, au Mexique, aux États-Unis, en Australie, au Cambodge, en Afrique du Sud et en Tunisie.
Ne dites pas que ce garçon était fou. Il ne vivait pas comme les autres, c'est tout. Pour quelle raison étrange, les gens qui ne sont pas comme nous, ça nous dérange. Ne dites pas que ce garçon valait rien, il avait choisi un autre chemin. Et pour quelle raison étrange, les gens qui pensent autrement, ça nous dérange, ça nous dérange. Il jouait du piano de
Il jouait du piano debout, France Gall sur RCF Clarté. C'était le choix de notre invitée Charlotte Courtois. Et nous voyageons, nous faisons le tour du monde. Australie, Cambodge, Afrique du Sud, Tunisie, France, Mexique, États-Unis. Vous avez choisi ce deuxième morceau dans ce magazine Rencontre avec sur RCF. Une musique qui vous a suivi durant ces 15 mois?
Je pense que ça m'a suivi un peu.
Ça vous ressemble?
Ouais, ça me ressemble.
Vous êtes pianiste?
Pas du tout. Je suis pas du tout musicienne, même si j'aime beaucoup la musique. Non, mais c'est l'idée de faire les choses différemment. Et ça surprend les gens. Et des fois, on nous prend pour des fous. Mais ça vaut le coup. Et j'ai toujours eu beaucoup, beaucoup de respect et d'admiration pour les gens qui suivaient leur chemin indépendamment du moule qu'on peut nous dicter et les choses habituelles, en fait. Mes pauvres parents, des fois, ils ont du mal à suivre. Ah, ils sont un soutien fantastique, j'ai énormément
quand
de
même.
Chance. Ouais, mes parents, mes frères et sœurs et puis ma famille élargie, vraiment, j'ai énormément de chance. Mais des fois, je sens que c'est un peu dur de comprendre.
Et ça va, ils arrivent quand même après ce voyage de quelques mois dans 7 pays différents. Et ils y croient encore plus à vos différents projets, à ce que vous allez faire plus tard.
Ils y croient depuis le début. Ils ont toujours su que j'allais pas suivre le chemin classique, même si je suis partie comme ça pourtant. J'ai fait une école de commerce. Et puis finalement, j'ai fini par faire un master de sociologie, anthropologie après. Et puis voilà, j'ai toujours eu du mal à rentrer dans les cases. Et ça, ils me connaissent particulièrement bien, donc ils le savent depuis très longtemps. Et c'est vrai que depuis le début de ce projet, avant même de partir, c'était très fort parce que pour moi, ça a été vraiment, je me suis trouvée. Ça y est, je trouvais l'endroit où je devais être. Et pour eux, finalement, enfin, ça a été, enfin, moi, je l'ai ressenti comme ça dans leur discours et dans nos échanges. Ça a été un vrai soulagement, en fait.
Vous l'avez fait, presque ce tour du monde, si on peut dire, c'est le tour
oui.
du monde, hein,
oui, ouais.
pour faire découvrir aux enfants les cultures et traditions du monde. Et vous avez ressorti eh bien, 7 livrets, on les a présentés tout à l'heure, avec l'association Constellatio, 7 livrets, 7 pays, 7 écoles, plus de 200 enfants. Une fois revenus de ces pays, vous avez toujours dans votre tête de très bons souvenirs. Il y en a un ou deux qui vous viennent, comme ça, un pays qui vous a marqué, des enfants, un enfant, une culture, une religion
C'est difficile parce que tout a été magique. C'est une des raisons pour lesquelles je partais également. Parce que voilà, je suis quelqu'un qui vit un peu dans un monde de bisounours, mais je suis réaliste, c'est-à-dire que c'est un choix. J'aime croire que, voilà, que les gens ont du bon, tout le monde a du bon en lui et qu'il y a des belles choses partout. Et les gens étaient d'une générosité incroyable. Et effectivement, un des exemples, ça serait aux États-Unis où j'ai été hébergée par une famille que je ne connaissais pas. Que j'ai rencontré d'ailleurs, j'étais mise en contact avec eux par quelqu'un qui est du coin, qui s'appelle Samuel Allo, qui a fait un
ah
tour
oui,
du monde.
Très bien, qu'on a reçu ici dans les studios, oui, bien sûr, il y a moins
ben
de deux
voilà,
ans.
Qui m'a mise en contact avec cette famille-là. Et ils m'ont hébergé, ils m'ont demandé si ça ne te dérange pas, tu pourrais peut-être habiter chez nous pendant les 2 mois, tu aurais ta propre chambre et tout. Moi, je disais, si ça ne me dérange pas, évidemment que ça ne me dérange pas. Ils m'ont emmenée en Floride avec eux aux vacances de Noël parce que c'était au moment de Noël. Ils m'ont fait un cadeau, la mère de la famille m'a fait un cadeau, elle m'a dit, c'est un bracelet que lui avait offert son premier mari il y a 30 ans, elle m'a dit je l'ai gardé pour le jour où j'aurai une fille, et c'est ce que j'ai de plus proche d'une
c'est
fille. Quoi.
Très touchant.
C'était incroyable, j'ai vécu des choses, mais partout, partout.
Un enfant qui vous a surpris que...
Je ne sais pas si un enfant, par contre un groupe d'enfants en Afrique du Sud, ça a été très très fort. Je travaillais dans un bidonville là-bas, un bidonville du Cap, avec une association étudiante qui s'appelle Choco, qui dépend de l'Université du Cap. Et c'était particulier parce que les enfants vivent dans un environnement tellement violent et tellement difficile qu'ils nous testent. Donc c'était une association étudiante, donc on était des volontaires en fait. Donc en général, ça changeait tous les 6 mois en plus. Donc au début, les enfants étaient allongés sur les tables, c'était difficile. Et puis, une fois qu'on gagne leur confiance, c'est très, très, très fort. Ouais.
Les retours, ils ont dû être nombreux avec les enfants. Il y en a que l'on peut découvrir sur Internet. Et justement, on est avec Yolanda en Afrique du Sud. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose.
Oui.
J'ai appris comment les gens font les choses dans d'autres pays. Je ne savais pas qu'on disait des Français qu'ils ne se lavaient pas, mais ce n'est pas vrai du tout.
Ah, j'aime beaucoup, beaucoup travailler sur les stéréotypes avec les enfants. C'est très, très drôle.
Et grâce à ces livrets, ça permettra aux enfants, justement, de voir peut-être certains pays, certains jeunes, certaines cultures différemment. Je trouve l'idée séduisante. Hein. Ce n'est pas moi qui ai écrit ça. Ça vous dit quelque chose?
Oui.
Je trouve l'idée séduisante. Et à ma connaissance, ce genre d'ouvrage ne circule pas encore dans les écoles. Les livrets circuleront dans les écoles. Alors, ce n'est pas un point d'interrogation, c'est une exclamation. En tout cas, c'est Claude de Villepoux, instituteur à Madrid.
Oui.
C'est ça?
C'est ça.
Bon, alors, est-ce que ces livrets circulent dans les écoles?
Pas énormément. Ils circulent dans les écoles qui ont participé. Par contre, la diffusion des livrets en dehors de ces écoles est encore un petit peu en stand-by pour une raison très pratico-pratique. C'est-à-dire que depuis que je suis rentrée, je suis en recherche d'emploi. Et étant présidente de l'association, je ne peux pas vivre de cette activité.
L'association Constellatio, alors quel avenir pour cette association? Vous avez quand même une idée? Ça ne va pas s'arrêter là?
J'ai des milliers
quelques
d'idées.
Oui.
J'ai des milliers d'idées, c'est... Non, j'ai bien l'intention de continuer.
Refaire la même chose dans
J'aimerais
le même style
continuer. J'aimerais
à voyager.
Continuer, développer en fait la collection de livrets dans plus de pays et entre autres le faire dans le même pays à plusieurs endroits différents pour montrer que la culture, c'est pas quelque chose qui est délimité par des frontières et qui n'est pas uniforme au sein des frontières. J'aimerais aussi faire des expositions, des choses comme ça. Et après, il y a d'autres projets.
Qu'est-ce que vous diriez justement peut-être à certains ou certaines de votre âge ou peut-être plus jeunes qui ont des rêves et que leur entourage, les adultes, les grands, leur disent « mais tu es jeune, c'est normal, tu es inconsciente
». Il y a deux choses. La première, c'est évidemment foncer. parce que les rêves, c'est fait pour être vécu. C'est une idée d'André Malraux. Les idées ne sont pas faites pour être pensées, mais pour être vécues. Et tant que vous n'aurez pas vécu votre rêve, vous ne saurez pas si c'est possible ou pas. Et pour ça, il faut essayer, il faut se lancer. Et peut-être que ça ne marchera pas, mais au moins, vous serez fixé. Et la deuxième chose, c'est que il faut se mettre en réseau, il faut rencontrer d'autres gens qui suivent leurs rêves et qui montent des projets et ça nous booste à fond. Moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidée au tout début. Je me sentais perdue, quoi. J'étais, qu'est-ce que je vais faire toute seule, quoi. C'est pas moi qui vais changer les choses. J'ai envie, mais je suis pas sûre que ça serve à quelque chose. Puis de fil en aiguille, je suis allée dans des conférences et j'ai rencontré des gens qui avaient des super projets sur plein de choses. Le recyclage, l'humanitaire, etc. Et ça booste, ça aide.
Charlotte Courtois, évidemment, on peut suivre cette association sur le net, un site, la page Facebook.
Tout à fait.
Voilà. Merci beaucoup, Charlotte Courtois, d'être venue dans les studios d'RCF Clarté.
Merci à vous.
Et on vous souhaite évidemment plein de bonnes choses. Et à très bientôt à RCF Clarté.
À bientôt.